RCF.
Les chemins de l'école, le magazine de l'enseignement catholique en Franche-Comté.
Imaginez qu'un professeur de collège, le premier jour de sa classe, propose à ses élèves de travailler différemment. Imaginez qu'il leur dise qu'il n'a plus envie de leur faire cours comme avant, face à eux, alignés les uns à côté des autres. Imaginez qu'il leur propose une méthode un brin originale, un peu différente de celle déjà tentée ici ou là pour remplacer le sacro-saint cours magistral et qu'il matérialise par une petite phrase « Désormais, vous ferez tout, je ne ferai plus rien, ou presque ». Une innovation pédagogique parmi d'autres. MOOC, tablettes et tableaux interactifs, il semblerait que l'innovation dans l'éducation ait aussi à voir avec le numérique. Mais pas seulement, deux exemples parmi d'autres. On ouvre une parenthèse et on prend les chemins de l'école en ouvrant le champ des possibles avec une nouvelle thématique, les explorateurs de l'innovation pédagogique. Xavier Debauchesne, bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'enseignement catholique franc-comtois. C'est vous qui avez créé, mis en place, justement, en 2011, vous me reprenez si je me trompe, si je ne m'abuse, eh bien, cette commission, en tout cas, c'est ce lieu où on va explorer. Quel est le rôle de ces explorateurs et qui sont-ils, Xavier Debauchesne?
Alors, je précise, j'ai pris la suite de ces explorateurs, puisque moi, je suis arrivé en 2016, ils existaient, en effet, depuis 2011. Alors, le rôle de ces explorateurs, c'est de circuler dans tous les établissements de Franche-Comté et de découvrir des innovations. Alors, selon les années, l'innovation peut être multiple, c'est-à-dire qu'on va chercher des innovations sans trop se demander quels sont les sujets que nous allons aborder. Et en fonction des innovations qu'on trouve, eh bien, on fera des ateliers en fonction de ces innovations. Et puis, quelques années, c'est le cas cette année, eh bien, on cherche un thème. Alors, il y a 3 ans, par exemple, c'était autour du numérique. Cette année, c'est autour de l'inclusion. On a d'autres sujets pour l'année prochaine. Mais l'idée, c'est vraiment de rechercher dans les établissements des innovations pédagogiques, les plus simples aux plus complexes, des plus simples aux plus complexes, et surtout de les valoriser pour pouvoir les transférer dans d'autres établissements.
Des innovations qui ne prennent pas forcément la même forme que l'on soit, j'allais dire, en maternelle ou en lycée.
Voilà, alors c'est une des particularités des explorateurs, c'est que on s'attache vraiment à chercher des nouvelles pratiques dans tous les niveaux de la scolarité. Donc on pourra reparler par exemple de la langue des signes maternelle, on pourra parler d'une évaluation sans note en collège, c'est des pratiques qui concernent l'ensemble des enseignants. Et pour ça, d'ailleurs, les explorateurs sont un groupe d'enseignants et de chefs d'établissement du premier et du second degré qui peuvent circuler, qui connaissent leurs collègues et qui peuvent circuler dans les établissements.
Alors justement, on va explorer et partir à découvert de ces explorateurs avec 3 explorateurs, vous verrez, assez différents. On va commencer par Ghislain Bonnet. Nous retrouvons Ghislain Bonnet depuis Champagnole, dans le Jura. Ghislain Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chef d'établissement du centre scolaire Jeanne d'Arc à Champagneul et professeur d'histoire-géographie et, j'allais dire, membre de la commission des explorateurs depuis la première heure, depuis 2011. C'est bien ça, Ghislain Bonnet?
Oui, c'est cela, depuis 2011.
Cette commission, dont vous la mettez à contribution, j'allais dire, chaque année, peut-être chaque jour, quelles sont les pépites pédagogiques qui vous ont marqué le plus?
Alors, on a eu beaucoup de sujets depuis 2011, vous imaginez bien. Je crois que la première qui m'a marqué le plus, c'est sur les outils numériques, qui a été faite il y a 3 ou 4 ans, voire plus, parce que c'est vrai que le numérique nous entoure de plus en plus et bien souvent, il peut apparaître comme un gadget. Et ce qui a été intéressant dans notre réflexion sur ce thème-là, c'est que ça apportait vraiment un plus, notamment pour certains élèves qui, on va dire, ont des profils spécifiques, notamment au niveau des élèves dyslexiques ou dysorthographiques. Ça peut être un outil très intéressant. La situation qu'on vit depuis un an a montré que le numérique, On ne pouvait plus s'en passer, je pense, dans l'enseignement. Voilà.
Lequel vous utilisez régulièrement, justement, de ces projets pédagogiques qui vous ont été présentés? Vous avez parlé du numérique. Il y a d'autres projets également que vous avez pu utiliser dans votre établissement?
Alors, on a travaillé aussi sur le temps scolaire. Alors, c'était tout au début de l'existence du groupe des explorateurs. Et c'est vrai que dans mon établissement, notamment au niveau du collège, on a repensé, on va dire, le rythme de la journée en privilégiant les cours d'1h20, qui permet de varier des activités sur une même séquence et de, j'allais dire, de relancer l'attention de l'élève justement en variant le type d'activité pédagogique et aussi d'utiliser la fin de séquence pour revoir des notions avec les élèves qui justement n'ont pas assimilé correctement. Et pour les autres, de partir sur un travail, on va dire, déjà de mise en application des notions abordées.
Alors, une question en découle, on vous présente des projets pédagogiques. Est-ce qu'ils sont tous exploitables, j'allais dire, immédiatement? Il faut peut-être aussi les acclimater au sein de l'établissement, Ghislain Bonnet.
On va dire que l'objectif de ce groupe d'explorateurs, c'est d'aller voir piocher toutes les pépites qui existent dans nos établissements franc-comtois, pas obligatoirement pour ensuite les mettre en situation dans les établissements, parce que chaque établissement a ses spécificités, son contexte particulier, mais c'est de permettre de donner des pistes de réflexion aux autres établissements. C'est vraiment le terme explorateur convient exactement à notre groupe. Puisque le premier objectif, c'est d'aller chercher ce qui existe dans nos établissements, la richesse que nous avons, les richesses de projets pédagogiques, de dispositifs qui existent, et d'essayer de les faire partager pour que chacun éventuellement se les approprie en tenant compte de la spécificité de chaque établissement.
Et ensuite, comment ça se passe? Ce sont les chefs d'établissement qui prennent votre attache, il y a des enseignants qui viennent voir sur place, un lien qui
Alors,
s'instaure.
on fait chaque année, on fait une journée des explorateurs. Cette année, elle portera sur l'inclusion, comment faire au mieux pour accueillir tous nos élèves avec des profils, on va dire, atypiques ou avec des handicaps. Et donc, on propose cette journée chaque année. Et ensuite, effectivement, les outils, des lettres, on va dire, d'information sont diffusées dans chaque établissement par l'intermédiaire des chefs d'établissement, effectivement.
Ghislain Bonnet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef d'établissement du centre scolaire Jeanne d'Arc à Champagneul, professeur d'histoire-géographie et explorateur de la première heure.
Merci. Au revoir.
Écoutez RCF sur le 87.6 à Besançon.
Xavier Debauchet, vous êtes directeur adjoint, directeur en charge de la pédagogie au sein de la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique. Alors, on vient d'entendre un exemple avec un chef d'établissement qui est également enseignant, si je puis dire. Quand on parle d'innovation pédagogique, oui, c'est pluriel. On parle beaucoup du numérique actuellement, surtout en période de Covid, mais c'est aussi ça. C'est explorer, c'est découvrir, essayer, tâtonner aussi.
Oui, en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, le numérique a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. La période qu'on vit actuellement en fait que le numérique est de plus en plus utilisé, mais je reviens sur ce que disait Ghislain tout à l'heure. En effet, ce n'est jamais qu'un outil et il y a bien d'autres outils. Ce serait dommage avec le numérique, on oublie tout ce qui se fait. Et une des particularités de l'enseignement, c'est justement d'avoir à se renouveler tout le temps parce que les enfants sont différents, le monde dans lequel on est différent, il faut que nos pratiques aussi sachent évoluer. Donc on tâtonne beaucoup quand on est enseignant, je trouve qu'une grande richesse de l'enseignement, c'est justement que d'une année à l'autre, on refait pas la même chose. Donc on tâtonne, il y a des choses qui sont bon, qui modifient un petit peu notre pratique et puis parfois on bouscule notre pratique, on s'essaye. Alors j'ai connu des enseignants qui avaient essayé un certain nombre de pratiques et puis qui les ont abandonnées par la suite en se disant non, ça ne marche pas. Et qui sont revenus à cette pratique après en disant mais c'était mieux. Donc voilà, c'est aussi ce tâtonnement, il existe évidemment dans l'enseignement, dans sans doute plein d'autres situations, mais il existe beaucoup dans l'enseignement. Et notre fonction aux explorateurs, c'est aussi de valoriser ça. On a beaucoup d'enseignants qui apprécient un jour de s'entendre dire « c'est quand même pas mal ce que tu fais, viens donc en parler aux autres ». Et je pense que ça a pu stimuler certains, non pas à mettre en place une innovation, mais à poursuivre cette innovation.
Alors on va retrouver justement Corinne Forge, qui est en liaison téléphonique avec nous. Bonjour Corinne Forge.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous êtes enseignante spécialisée et exploratrice.
Jeune exploratrice, oui.
Alors dis jeune exploratrice, alors dites-moi comment ça s'est passé, comment ça se passe concrètement, vous, qu'est-ce qu'on vous a demandé de présenter aux autres établissements franc-comtois? Oui. D'ailleurs c'est Xavier de Beaugène qui vous a contacté, on va faire le lien.
C'est ça, c'est Xavier qui m'a gentiment demandé pour aujourd'hui, mais en fait moi j'ai intégré le groupe des explorateurs sur la base du volontariat en entendant Xavier de Beaugène expliquer à tous, à l'équipe pédagogique, ce projet. J'ai tout de suite été interpellée par ça, parce qu'en fait, il y avait une émulsion en fait qui s'entendait, et les pratiques pédagogiques, notamment au travers du chantier de l'inclusion que Xavier de Beauchesne énonçait, étaient pour moi quelque chose de primordial en fait dans la pratique enseignante. Donc, je me suis portée volontaire, Monsieur de Beauchesne a accepté très gentiment, et je me suis retrouvée à travailler au sein d'un groupe avec des personnes dont l'ancienneté était vraiment variée et qui m'ont accueillie à bras ouverts autour d'échanges de pratiques. Et ça a été très enrichissant pour moi de savoir justement qu'est-ce qui se passait en dehors de notre petite unité d'enseignement, de notre établissement en fait. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'effectivement les enseignants bien souvent n'ont pas forcément conscience qui font des choses qui sortent de l'ordinaire et qui pourraient aider d'autres dans leurs pratiques, dans leurs interrogations. Et les explorateurs permettent justement de faire le lien en allant au contact de ces enseignants dans les différents établissements et en mettant en exergue, en mettant en valeur leur travail.
Alors Corinne Forge,
pour les encourager justement à transmettre à d'autres.
Corinne Forge, on va se tourner du côté de Xavier de Beauchesne. La thématique de cette année, c'est l'inclusion. Corinne Forge vient de le dire également. On a l'impression d'être un peu dans, oui, je ne vais pas dire dans son carcan, dans son cadre, mais on ne voit pas trop ce qui se passe ailleurs. On se sent un peu seul dans ce métier, Xavier de Beauchesne, d'enseignant.
Mais je dis souvent que la grande difficulté de l'enseignant, c'est le syndrome Nyland-Guidon. C'est-à-dire que chaque jour, on a quelque chose à faire et on pense déjà à ce qu'on va faire le lendemain. Puisque chaque jour, on a un cours d'après, on a le cours d'après, on a la classe d'après, etc. Et c'est assez difficile, quand on est enseignant, de s'arrêter, de se poser, de relire déjà ce qu'on a fait, de faire un premier bilan, etc. Et puis d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour évoluer dans notre pratique. Alors heureusement, on parlait du numérique aujourd'hui. Le numérique ouvre beaucoup de portes parce qu'il suffit de cliquer sur quelque chose pour avoir plein d'informations. Donc ça ouvre, je pense que ça ouvre les enseignants aussi à ces pratiques-là. Mais le contact direct est tout aussi important. Et en effet, je pense que quand on est dans sa classe, c'est parfois difficile de travailler avec ses collègues, même les collègues de l'école, et c'est encore plus difficile de travailler avec les collègues des autres établissements. Alors, qui plus est, quand les établissements sont à une centaine de kilomètres ou à 80 kilomètres, pour la Franche-Comté par exemple.
Alors, vous parliez du syndrome du nez dans le guidon, mais on est aussi dans un peloton, hein, Corinne Forge, on travaille à plusieurs. Et vous, alors, parlez-nous un peu de l'inclusion concrètement chez vous, dans votre classe, Corinne Forge.
Alors, l'inclusion, d'abord, c'est une action en fait qui va viser à inclure les élèves, la globalité des élèves, en prenant soin de s'attacher à leurs besoins particuliers, puisqu'en fait l'inclusion, hein, je distingue bien, ne concerne pas que les champs du handicap, comme beaucoup peuvent le penser. L'inclusion, c'est vraiment l'affaire de tous. Hein. C'est une question avant tout même de justice, je dirais. Hein. C'est donc un processus qui va viser en fait à aller cibler la diversité des besoins de nos élèves et justement elle va tendre à réduire l'exclusion qui malheureusement se manifeste encore dans l'éducation. Donc on va viser à transformer nos approches, nos contenus, On va mettre en place des stratégies avec une vision commune. C'est quelque chose qui se porte au niveau de, pas seulement de la classe, hein, mais d'un établissement au complet, afin que les enfants, en fait, dans leur tranche d'âge, puissent complètement évoluer en toute sérénité face à leurs besoins respectifs.
Xavier Debauchet, on a déjà parlé de l'inclusion dans le cadre des chemins de l'école, le magazine de l'enseignement catholique. C'est la thématique que vous avez choisie cette année. On peut la rappeler, l'inclusion, c'est vraiment aujourd'hui partout et pour tout le monde.
L'inclusion, ça ne concerne pas que l'éducation. C'est en effet cette idée que la société est inclusive, c'est-à-dire que, je répète souvent que la société a été faite pour, faire rentrer la plupart des gens dans une certaine norme, même si elle est assez large, cette norme-là. Et le problème, c'est qu'un certain nombre de personnes sortaient de cette norme-là et donc étaient un peu à côté de cette norme-là. Et donc, dans la société, quelle que soit la situation, à côté de ce qui se passait, que ce soit dans l'éducation, dans la culture, dans le milieu professionnel, etc. L'inclusion, c'est ouvrir complètement et se dire que on a quelque chose à faire pour tous, pour que tout le monde se retrouve dans cette même société, alors dans cette même classe, dans ce même établissement, etc. Donc ça concerne en effet tout le monde, vraiment tout le monde, quoi. Que ce soit au niveau des jeunes qui sont pris en charge dans l'école, que ce soit au niveau des adultes qui les prennent en charge, quoi.
Corinne Forge, dernière question. Alors l'inclusion, qu'est-ce que vous avez découvert quand vous avez exploré avec d'autres établissements, un coup de cœur comme ça?
Oui, alors
un
oui,
exemple.
Bien sûr. La classe flexible.
La classe flexible.
La classe flexible, oui, tout à fait. C'est par exemple, hein, c'est pas à la portée de tous. Encore une fois, c'est une démarche pédagogique que l'enseignement va construire, va mûrir, va s'approprier. La même démarche peut porter le même nom, mais être appliquée différemment selon l'enseignement. La classe flexible, en fait, c'est permettre dans une classe à des élèves de travailler ensemble, mais pas sur la même chose au même moment. En fait, l'élève est vraiment placé au centre de son apprentissage. Il est acteur. Il a comme une planification qui l'attend, et c'est lui qui va aller choisir ce qu'il va faire, en fait, hein, ce qu'il va décider d'apprendre, sur quoi il va décider de travailler aujourd'hui, dans un cadre tout à fait posé. Cependant, hein. Donc dans la classe flexible, vous allez avoir une classe avec des groupes d'élèves, parce que l'apprentissage entre pairs est valorisé. Vous allez avoir une disposition de classe qui n'est pas du tout ce qu'on appelle en randonnion, mais bien au contraire par îlot, ou alors des élèves qui peuvent travailler seuls s'ils le souhaitent. Et puis ça va passer également par du matériel adapté. Donc vous pouvez avoir des élèves qui sont assis sur des pneus, sur des poufs, sur des ballons, et non plus simplement sur des chaises rigides, rangées les uns derrière les autres. C'est vraiment donc c'est une classe qui vit, c'est une classe où il y a du bruit, où les élèves discutent, échangent, et c'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'il y a des choses qui peuvent, pour la personne qui observe, ça peut penser comme une classe un peu brouillon, alors qu'en fait tout est vraiment parfaitement orchestré. Mais ça, je pense que ça demande déjà un certain niveau de maîtrise et de pratique. On vient pas à la classe flexible comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose où qui se structure, et là encore on avance par tâtonnement. Effectivement, chaque année il y a des choses où l'enseignant va changer, ou au contraire va conserver. Ça dépend aussi énormément du groupe classe qu'il a en face de lui à la rentrée.
En tout cas, merci Corinne Forge pour ce témoignage passion. On voit, vous nous l'avez fait vivre, si je puis dire, en direct dans les chemins de l'école.
Merci
à vous. Xavier Debauchet, on va partir cette fois-ci à des découvertes d'autres explorateurs, et on va aller du côté de Vercelles dans le Doubs.
Les chemins de l'école, le magazine de l'enseignement catholique en Franche-Comté, animé par Damien Martinez.
Marie-Françoise Chaïs, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous accueillir à Vercelles, dans le Doubs. Je rappelle que vous êtes chef d'établissement du groupe scolaire du Sacré-Cœur à Vercelles. Marie-Françoise Chaïs, dans le cadre de votre mission d'exploratrice, vous avez eu à découvrir, j'allais dire, une kyrielle de projets pédagogiques, et des projets pédagogiques que vous avez peut-être pu utiliser ou effectivement présenter depuis votre établissement. Alors on va commencer peut-être par parler des actions à destination des élèves, c'est-à-dire à aider les élèves à progresser ou à être mieux également au sein du groupe classe.
Oui, exactement. Ce sont vraiment les actions qui m'ont marqué et que j'ai retenues, et qu'on a testées pour un certain nombre d'entre elles au sein de l'établissement également. En ce qui concerne, par exemple, les actions qui permettent aux élèves de progresser à leur rythme, je dirais, selon leurs propres compétences, j'ai retenu des actions comme développer le tutorat, par exemple, entre pairs. C'est-à-dire que les élèves sont un petit peu regroupés de façon à ce que les élèves le plus à l'aise puissent venir en aide à des élèves plus en difficulté dans des matières données. Ça peut se faire dans le cadre de l'aide aux devoirs, ça peut se faire dans le cadre d'une heure d'études, par exemple. Autre action qui consiste à mettre à disposition des élèves un outil différent, comme par exemple créer un Padlet sur outil informatique, sur Internet, qui permet aux élèves d'écrire, de rédiger, mais avec un outil qui leur est peut-être plus familier, qui semble plus ludique. Donc, c'est plus simple pour eux. J'ai un exemple en tête d'un cahier de classe en classe de maternelle, un cahier de vie de classe en classe de maternelle qui a été fait pour lequel tous les élèves ont participé en y ajoutant une page. Autre exemple un petit peu dans le même esprit, il s'agit par exemple de créer un livre collaboratif grâce à une application. Chacun peut donc rédiger et le livre final est édité. Ils ont tous participé à leur rythme, à leur niveau.
Vous avez également mis en place d'autres projets pédagogiques qui ont trait par exemple à la concentration, développer la concentration auprès des élèves.
Exactement. Ouais, on s'est aperçu que c'était un élément déterminant pour les aider à progresser. Et là, il a été mis en place des ateliers de méditation en pleine conscience qui aident les élèves à trouver la concentration.
Et alors, ça consiste en quoi dans les faits? Comment ça se passe pour les élèves?
Dans les faits, c'est apprendre. Les élèves ont eu des séances au cours desquelles ils ont pu apprendre à se concentrer, à respirer, à se recentrer sur leur travail, éviter des idées et des pensées parasites, par le biais donc de la respiration, par le biais d'un certain nombre de mouvements qu'une formatrice est venue leur enseigner au cours de séances, une dizaine de séances dans l'année, et qui peuvent ensuite pratiquer avec leur enseignant.
Vous avez peut-être dû voir aussi des changements en période de confinement, enfin, des élèves qui ont pu mettre à profit à la maison peut-être aussi ces processus et ces procédés de méditation.
Tout à fait, parce qu'il y avait des séances qui ont été dispensées par la formatrice à distance, donc à raison d'une séance par semaine, pour leur rappeler un petit peu les mouvements et les pratiques qu'ils avaient pu voir au cours de l'année avec elle. Donc la différence, on la voit, et ce qu'on voit aussi, c'est une moins d'agressivité et plus de sérénité dans les classes qui ont pu participer à cette expérience.
Marie-Françoise Chaïs, d'autres projets également que vous avez pu explorer, mettre aussi à profit au sein du Sacré-Cœur à Vercelles?
Alors ça peut être au sein du Sacré-Cœur ou d'autres projets que j'avais pu recenser dans le cadre de ma mission d'exploratrice. Je pense à des ateliers par exemple qui permettent de développer la confiance en soi. On retrouve un peu le même état d'esprit, hein, le même objectif, je dirais, que les ateliers de méditation. Un autre exemple que j'ai trouvé intéressant et là qu'on a mis nous en application, c'était le parrainage des nouveaux élèves, des sixièmes par exemple, par des élèves de troisième qui étaient déjà dans l'établissement et qui ont pu aider ces nouveaux élèves à trouver leur place, hein, dans l'école. Des ateliers aussi qui sont mis en place dans un certain nombre d'établissements chez nous également, de mise en valeur des talents méconnus. Donc là, on ne travaille pas sur les disciplines scolaires, mais je dirais sur des activités un petit peu parallèles. Ça peut être la photographie, ça peut être le bricolage, la découverte également du cinéma, hein, par exemple.
Marie-Françoise Chaïs, merci beaucoup pour ce témoignage avec effectivement une kyrielle de projets pédagogiques que vous avez pu explorer in situ. Je rappelle que vous êtes la chef d'établissement du groupe scolaire du Sacré-Cœur à Vercelles. Merci à vous.
Tout à fait, c'est moi qui vous remercie.
Écoutez RCF sur le 88 à Vesoul.
Xavier Devauchaine, on a entendu dans le cadre de cette émission Les Chemins de l'École une kyrielle effectivement de projets, des projets qu'on va pouvoir vivre in situ et presque en direct, mais en distanciel dans quelques jours.
Oui, juste pour terminer, pour dire que les explorateurs qui ont d'habitude d'organiser leur journée, forment des initiatives, vont l'organiser, mais cette fois-ci en visio. Et donc, on aura une journée complète avec plein de rendez-vous, mais tout le monde sera au courant de tous ces rendez-vous et on pourra venir et puis piocher ici ou là dans la journée du 26 mai les nombreux projets, expériences liées à l'inclusion. Et donc, notez le 26 mai, c'est en visio et c'est sur des rendez-vous que chacun pourra prendre.
Merci Xavier Devauchaine. Je rappelle que Merci. Vous êtes directeur adjoint en charge de la pédagogie au sein de l'enseignement catholique franc-comtois. C'est la fin des chemins de l'école sur RCF en Franche-Comté, bien sûr.